Vous écoutez RTL.
Sur RTL, il est exactement 7h.
RTL Weekend, Yann Bouchery, Bernard Poirette.
Yann, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Et donc, les États-Unis ont mis leur menace à exécution. Ils ont bombardé cette nuit la Syrie avec l'aide de la France et de la Grande-Bretagne.
Opération en représailles aux attaques à l'arme chimique perpétrées par le régime de Damas. Tous les détails dès le début du journal. Dans l'actualité également, la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. La justice a gelé une partie de ses biens et ses droits d'artiste. La grève à la SNCF et les départs en vacances. Trafic évidemment perturbé sur les rails avec un gouvernement qui joue sur les division syndicale. À Notre-Dame-des-Landes, la main tendue et la fermeté du Premier ministre Édouard Philippe en visite surprise hier en Loire-Atlantique. Et puis les sports. En football, un partout hier entre Angers et Nice. Et puis le biathlon à l'aube d'un scandale retentissant.
L'opération militaire occidentale contre la Syrie a été déclenchée cette nuit. Elle est désormais terminée.
Oui, préparée depuis plusieurs jours, elle a été annoncée par le président américain Donald Trump peu après 3h du matin, heure française. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni se battent contre la barbarie, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche, qui s'est exprimé en direct à la télévision.
Des frappes de précision sur des cibles associées aux capacités d'armes chimiques du dictateur syrien Bachar al-Assad. Une opération conjointe avec les forces armées de la France et du Royaume-Uni est maintenant en cours. Nous les remercions tous les deux.
Donald Trump, cette nuit à la télévision américaine. L'opération occidentale vient donc en réponse à l'attaque chimique récente du régime de Damas contre la population de la Ghouta orientale. Philippe Corbet, vous êtes en direct des États-Unis pour RTL. Bonjour.
Bonjour.
Ces frappes ont donc concerné plusieurs sites syriens.
Oui, les missiles de croisière ainsi que les avions américains, britanniques et français ont visé 3 sites chimiques, un centre de recherche près de Damas, un dépôt d'armes chimiques à Homs et un autre près de Homs. Donc, malgré la rhétorique guerrière employée par le président Trump contre la Russie en milieu de semaine, le ton avait surpris. Eh bien, l'opération choisie est finalement beaucoup plus restreinte. Tout a été calculé pour éviter une surenchère avec l'Iran et la Russie, qui ont des forces armées présentes en Syrie auprès de celles du régime. Ça reste donc une opération punitive, certes plus large que celle de l'année dernière, parce qu'il y a 3 cibles et plus une seule, parce que 2 fois plus de missiles ont été utilisés, parce qu'il y a 3 pays occidentaux et plus un seul, mais une opération punitive qui vise essentiellement à envoyer une nouvelle fois un message à Assad et aux puissances qui le soutiennent. Ce n'est pas, comme le souhaitaient certains faucons à Washington, une opération plus massive visant à détruire l'appareil militaire syrien. Le secrétaire à la défense Mattis avait mis en garde le président Trump des risques d'incidents et donc d'escalade avec la Russie et l'Iran. Ce matin, le secrétaire à la défense parle de frappes lourdes mais proportionnées.
Merci beaucoup Philippe Corbet, en direct des États-Unis pour RTL. La Russie a répété ce matin qu'il y aura des conséquences aux frappes alliées en Syrie. L'Iran, de son côté, a mis en garde contre les conséquences régionales potentielles.
Même si les Américains ont mené la majorité des frappes contre la Syrie cette nuit, la Grande-Bretagne et la France donc ont apporté leur contribution.
Ah oui, Emmanuel Macron l'avait laissé entendre lors de son interview télévisée de jeudi midi en évoquant le moment le plus opportun et le plus efficace. Pierre Julien, bonjour.
Bonjour Yann.
L'Élysée a justifié dans la nuit l'intervention des forces armées françaises.
Oui, Emmanuel Macron était cette nuit à l'Élysée entouré par Florence Parly, ministre des Armées, le général Lecointre, le chef d'état-major des armées, avec les adjoints, les conseillers comme l'amiral Rogel, le chef d'état-major particulier. Le président précisait dans un communiqué que la ligne rouge fixée en mai 2017 avait été franchie, ce qui expliquait sa décision de lancer cette frappe en représailles, une première pour lui comme chef des armées. Et sur Twitter, la photo de la cellule de crise élyséenne a été publiée avec le message en français, mais aussi en anglais et en arabe. Une courte vidéo a également montré des rafales équipées de missiles de croisière Scalp s'apprêtant à décoller, semble-t-il, de France. D'ailleurs, on peut penser également que pour la première fois, au moins, une frégate de la marine nationale a tiré des missiles de précision navale depuis la Méditerranée orientale. Les alliés se sont répartis les cibles pour réaliser ces raids. La France a été, avec le Royaume-Uni, totalement intégrée à la phase en amont de renseignement américain. Écoute, satellite, origine humaine pour cibler les objectifs au plus près. Les bases où se trouvent les militaires russes ou iraniens n'ont pas été visées, mais Moscou n'a pas été prévenu cette fois du déclenchement de l'opération.
Merci beaucoup Pierre Julien pour toutes ces précisions. L'OTAN a apporté ce matin son soutien aux frappes de la coalition et puis l'ONU appelle, je cite, les États à la retenue et à éviter l'escalade.
Au tribunal de Nanterre, chacun des clans Hallyday faisait part de sa satisfaction hier soir à l'issue du jugement. jugement en référé.
Oui, la justice a ordonné le gel d'une partie des avoirs du chanteur décédé ainsi que la mise sous séquestre de ses droits artistiques. Mais Laura et David n'ont pas obtenu de droit de regard sur son album posthume. Selon maître Amir Aslani, l'avocat de Laetitia Hallyday, les magistrats dans leur décision n'ont pas porté préjudice à sa cliente, au contraire.
La décision ne gèle que les avoirs français, c'est-à-dire Saint-Barth et la maison de Marne-la-Coquette. Les actifs américains demeurent libres, ce qui est une reconnaissance, en fait, de facto, du trust. Les actifs américains ne sont pas concernés par cette décision. Et les actifs français, ma foi, la seule chose qui a été décidée, c'est qu'il a été fait interdiction à Laetitia Hallyday de les vendre. Étant entendu que, de toute façon, elle n'a pas le pouvoir de les vendre, puisque ces actifs sont dans le trust, ni l'intention de les céder, cette décision n'aura pas d'incidence sur sa vie. À ce stade-là, je ne pense pas que je vais recommander à ma cliente de faire appel. La justice française, on a une confiance absolue en elle. L'audience, au fond, aura lieu dans 12 mois, dans 18 mois. On présentera nos arguments devant le tribunal et le tribunal tranchera.
Maître Amir Aslani, l'avocat de Laetitia Hallyday au micro RTL de Morad Djabari. Pour lui répondre, notez bien le rendez-vous. Maître Pierre-Olivier Sûr, l'avocat de Laura Smed, sera l'invité d'RTL à 8h45. Sa première interview depuis le prononcé du jugement. En bref, dans le procès de la filière djihadiste de Lunel dans l'Hérault, 4 des 5 prévenus ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Le dernier, lui, a été relaxé.
Pour la première fois depuis le début du mois d'avril, la grève à la SNCF coïncide avec un chassé-croisé de vacances de printemps.
Oui, la zone A termine sa première semaine alors que la C entame ses congés, celle de Paris, Toulouse et Montpellier. Le trafic sera perturbé avec un TGV et un TER sur 3 aujourd'hui, 2 transiliens sur 5 et un intercité sur 5. L'intersyndicale a demandé hier par communiqué l'arrêt du processus législatif, mais dans le même temps, la CFDT et l'UNSA recevaient un courrier de la ministre des Transports confirmant quelques avancées avec la prise en compte d'amendements par le gouvernement. Elisabeth Borne qui tente visiblement de marginaliser la CGT et Sudrail pour sortir du conflit, Éric Vanier.
Oui, en fait, la CGT et Sudrail ne sont jamais entrés dans la méthode de travail proposée par le gouvernement. Une concertation pour nourrir le débat parlementaire, non pas sur les objectifs et les principes généraux de la réforme, mais sur les modalités et les garanties. Les deux syndicats campent dans une posture d'opposition frontale, en réclamant purement et simplement, sans aucune nuance, le retrait de la réforme ferroviaire, avec en plus des arrière-pensées politiques, alimenter un front anti-Macron. La CFDT et l'UNSA ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Les deux centrales réformistes ont accepté de jouer le jeu en rédigeant, en concertation avec le ministère des Transports, des amendements parlementaires visant à mieux encadrer la réforme, ce qui leur a valu donc ce courrier d'Elisabeth Borne s'engageant à relayer et soutenir à l'Assemblée nationale certaines de leurs propositions, avec là aussi sans doute des arrière-pensées, essayer de semer la zizanie dans les rangs syndicaux pour affaiblir le mouvement. Mais pour l'instant, l'intersyndicale tient bon, radicaux et réformistes sont toujours unis dans la grève.
Éclairage signé Éric Vanier pour RTL. Pas de répit à Air France. L'intersyndicale, elle a maintenu ses 4 autres appels à la grève, dont ceux de mardi et mercredi prochain. La politique du gouvernement dans le viseur de plusieurs organisations syndicales, mais aussi de plusieurs partis. Ainsi, une manifestation Stop Macron est prévue cet après-midi à Marseille. Les opposants sont invités à se rassembler à 14h. Jean-Luc Mélenchon sera présent dans le cortège.
Autre manifestation aujourd'hui, cet après-midi exactement, à Nantes, en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes.
Le Premier ministre a effectué une visite surprise hier en Loire-Atlantique, alors que 40 squats de la ZAD sur les 96 existants devaient être déconstruits, selon le chiffre annoncé en début de semaine. Édouard Philippe a donc annoncé que l'objectif était finalement atteint, avec le chiffre de seulement 29 abris détruits. Les évacuations sont a priori terminées et le locataire de Matignon appelle les récalcitrants à rentrer dans le rang. Il l'a dit au micro RTL de Nicolas Bobby.
En parallèle à ces opérations, notre main reste tendue en direction de ceux qui veulent entrer dans le processus de régularisation que nous avons évoqué, là encore, très tôt en janvier, après l'annonce des décisions que nous prenions. Mais je veux le dire aussi très clairement, ceux qui, en dépit des annonces que nous avons formulées, tous ceux qui ne voudraient pas s'engager dans cette régularisation et dans le cadre légal, eh bien, devraient en tirer toutes les conséquences. Et ils se mettront évidemment sous le coup de poursuites visant à mettre un terme à des occupations illégales. Je voudrais dire que l'État n'acceptera pas la reconstruction ou la réoccupation des sites qui ont été évacués ceux qui se livreraient à des exactions de ce type se verraient et s'excluraient eux-mêmes de toute possibilité de régularisation.
Le Premier ministre Édouard Philippe au micro RTL de Nicolas Bobby. La préfète de Loire-Atlantique, elle, a présenté hier un formulaire simplifié auquel peuvent prétendre désormais les occupants illégaux de la ZAD en indiquant seulement leur nom, leur projet et l'identification d'une parcelle. Une initiative qui a déclenché la colère du président de la Chambre d'agriculture du département qui évoque un dossier non maîtrisé et un code rural bafoué.
RTL 7h11, RTL Weekend, la suite. Yann Boucherie, Bernard Poirette avec les sports.
On passe au sport avec un rituel pour les médaillés olympiques, ceux des Jeux d'hiver de Pyeongchang. En l'occurrence, ils ont été reçus hier à l'Élysée.
Oui, une reconnaissance par la République de leur talent. Et parmi les plus sollicités, évidemment, Martin Fourcade. Alors que le biathlon est peut-être à l'aube d'un énorme scandale, Isabelle Langer.
Oui, le président de la Fédération internationale de biathlon est en effet soupçonné d'avoir caché de nombreux cas de dopage de coureurs russes. 65 biathlètes pourraient être concernés. Pour corrompre le Norvégien Anders Beseberg, mais aussi la secrétaire générale de l'IBU, la Russie aurait fait passer quelques valises diplomatiques bien remplies. Certains évoquent la coquette somme de 400 000 dollars. Pour Martin Fourcade, c'est un vrai choc.
C'est des révélations qui sont graves. Ensuite, j'ai un devoir de réserve par rapport à l'enquête et je le respecterai. Cependant, si ces révélations devaient être confirmées, c'est un vrai coup dur pour le biathlon. C'est une vraie bombe pour le sport et ça pose des questions sur la gouvernance de la lutte antidopage. Parce que c'est pas normal que deux personnes comme ça puissent... à elle seule, falsifier des tests antidopage.
Le profil le plus suspect parmi les athlètes russes épinglés, celui d'Evgeny Yustyukov, qui avait remporté l'or olympique en mass start à Vancouver en 2010, devant Martin Fourcade.
Dossier signé Isabelle Langer.
En football, Angers et Nice n'ont pu se départager hier en ouverture de la 33e journée de Ligue 1.
Un but partout entre les deux équipes. Pléa avait ouvert la marque pour les Aiglons, mais Fulgini a égalisé pour le SCO. Nice est provisoirement 6e et Angers 14e. Suite des rencontres aujourd'hui avec Lyon-Amiens à 17h, l'OL qui récupère Nabil Fekir, absent depuis le 25 février pour une blessure au genou droit. Bruno Genesio, l'entraîneur, est impatient de retrouver son capitaine.
Je le sens bien, je le sens déjà libéré par rapport à sa blessure, ce qui est le plus important. J'avais dit qu'il fallait être patient et prudent. Donc on a pris le temps qu'il fallait, en pleine concertation avec lui et le staff médical. Il est aujourd'hui à 100% physiquement, ce qui était le plus important. Et je pense que dans sa tête, il a à cœur de faire une très très belle fin de saison, à la fois pour nous aider à décrocher cette place sur le podium, et aussi pour atteindre son objectif individuel de participer à une Coupe du Monde, ce qui est toujours un moment extrêmement important dans une carrière de joueur. S'il est performant pour l'équipe, il sera récompensé individuellement.
Bruno Genesio avec Willy Bézonas. Les autres rencontres de la soirée, Caen, Toulouse, Lille, Guingamp, Nantes, Dijon, Rennes, Metz et Strasbourg, Saint-Etienne, à vivre dans le multiplex RTL équipe, 19h30, 23h, autour de Christian Olivier.
Et en Ligue 2, surprenante défaite de Nîmes à domicile.
Oui, les Crocodiles se sont inclinés 2-0 devant Sochaux, tandis qu'Ajaccio s'est imposé devant Nancy 2-0 également. Victoire d'Orléans sur Quevilly et du Havre sur le Gazélec Ajaccio 2-1. Châteauroux l'emporte à Tours 1-0. Victoire de Clermont à Auxerre 2-1. 2-2 entre Niort et Lens. 2-2 aussi entre Valenciennes et Bourg-en-Bresse. À 15h, le Paris FC accueille Reims. Au classement, Ajaccio revient à une longueur de Nîmes, le dauphin de Reims. Et puis un rappel, en demi-finale de la Ligue Europe, Marseille affrontera les Autrichiens de Salzbourg. Match aller au Stade Vélodrome le 26 avril, retour le 3 mai.
Parlons rugby aussi, parce que ce week-end pourrait s'avérer déterminant dans la course au barrage du top 14.
Et oui, avec notamment un bouillant Toulon-Montpellier aujourd'hui à 14h45. Les Varois, 4e du classement, accueillent le leader et ont bien envie de s'offrir son scalp, selon Fabien Galtier, l'entraîneur du RCT.
Ben nous, déjà, on aimerait bien qu'il y ait du monde qui vienne nous voir jouer, malgré les grèves SNCF, là. Donc, faites du covoiturage, tout ça, venez à Marseille, quoi. Il faut stimuler notre public. Et puis ensuite, le match contre Montpellier, on joue le leader. Et pour nous, c'est encore en huitième de finale. Tous les matchs qui arrivent là, ce sont des huitièmes de finale. C'est assez simple. On reçoit le leader à Marseille dans un match qui est déterminant pour la suite de la compétition pour nous. Eux, ils ont un peu d'avance. Je pense qu'on va avoir les crocs. On a vraiment l'écran.
Toulon-Montpellier au Stade Vélodrome de Marseille. Délocalisé, les autres matchs du jour à 18h. Pau-Agen, Oyonnax-Brive et Clermont-Bordeaux-Bègles. Enfin, Lyon-Stade Français, ce sera à 20h45.
Merci beaucoup Yann Boucherie. C'était le 7h. Yann revient à 8h pour sa prochaine édition.
Vous écoutez RTL.